Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Avant de vous donner la parole, comme tous les jours, au 32-10, dès 13h, nous allons développer les grands titres de l'actualité de ce jeudi 4 août. Patrick Balkany sortira de prison demain. L'ancien maire de Levallois-Perret avait été réincarcéré il y a 6 mois. Les patrons sont-ils prêts à augmenter les salaires pour contrer l'inflation ? Aucune obligation, mais Bercy les incite fortement à le faire. La Haute-Corse va-t-elle manquer d'eau ? Oui, prévient la préfecture. À ce rythme de consommation, dans 24 jours, c'est robinet à l'arrêt. Nous en parlerons avec notre invité. Et c'est d'ailleurs notre question du jour sur RTL.fr. Faites-vous des efforts pour consommer moins d'eau ? Vous avez répondu oui à 70%, non à 30%. Et bien évidemment, dans ce journal, nous reviendrons sur le drame qui a frappé la capitale libanaise. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Une immense explosion sur le port de Beyrouth faisait 200 morts. La météo, bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
On respire un petit peu mieux sur une partie du pays.
Oui, sur le nord-ouest et près de l'Atlantique, grâce à quelques averses qui ont été rares ce matin. On a eu 3 gouttes à peine à Paris. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver ces averses sur une large moitié nord, sauf en Alsace et près de la Manche, où vous aurez des éclaircies. Soleil toujours dans le sud, mais quelques orages pourraient éclater aussi sur les reliefs. Et puis donc, ces températures, 22 à Brest, 26 à Biarritz, 29 à Lille, donc ça baisse nettement, encore 32 degrés. Certes à Paris et La Rochelle, et toujours la canicule dans 26 départements en vigilance orange. Entre le sud-ouest, la vallée du Rhône et le nord-est, vous aurez encore 34 degrés à Bordeaux, 37 à Grenoble, Toulouse et Clermont-Ferrand, 38 à Strasbourg et Dijon, jusqu'à 39 degrés pour Lyon et pour Chambéry.
Merci beaucoup Anthony, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Patrick Balkany, autorisé à sortir de prison demain. Condamné pour blanchiment de fraude fiscale, l'ancien maire de Levallois-Perret avait été réincarcéré il y a 6 mois. Bonjour Anne Le Hénaff.
Bonjour.
À l'époque, en révoquant son placement sous bracelet électronique, la justice avait voulu sanctionner son arrogance.
Oui, un certain mépris pour les décisions de justice. Il avait déjà fait 5 mois de prison avant d'être autorisé à finir sa peine chez lui, dans sa propriété de Giverny. Mais il ne respectait pas les distances ni les horaires de sortie autorisés. Une centaine d'incidents ont été enregistrés et surtout il n'avait pas fait grand-chose pour commencer à payer ce qu'il doit au fisc, plus de 4 millions d'euros. D'où ce retour à la case prison en février dernier. La cour d'appel a décidé de le laisser ressortir en libération conditionnelle. Il a commencé à rembourser et il est souffrant. Rien ne justifie le maintien en détention d'un homme qui a déjà purgé les 2/3 de sa peine, ont dit ses avocats à RTL ce matin. Patrick Balkany va donc pouvoir fêter chez lui ses 74 ans dans quelques jours avec sa femme Isabelle, qui avait fait une tentative de suicide lorsque leur placement sous bracelet avait été révoqué en février dernier. Elle feuilletonne son attente sur Twitter depuis des mois. Ce matin, une photo de leurs 3 chiens, pleines de cœurs roses, légendés. Demain, on t'attend.
Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL. Nous en parlions dans les titres en Haute-Corse. Le compte à rebours est lancé. La préfecture est très claire. Si la consommation se poursuit à ce rythme, dans 24 jours, il n'y aura plus d'eau dans le département. Nous sommes en direct avec le sous-préfet Yves Darro. Bonjour monsieur. Est-ce que vous m'entendez, Yves
oui,
Darro?
Oui, je vous entends.
Bienvenue dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse. Est-il encore possible d'éviter cette pénurie?
Oui, ah bah oui, il est encore possible d'éviter la pénurie, raison pour laquelle les mesures de restriction ont été mises en place. Ce n'est pas inéluctable. À une seule condition, c'est qu'il y ait une responsabilisation collective et que les gens prennent conscience que l'eau est un bien commun, qu'il faut le partager et que c'est pas inépuisable. Et qu'à partir de là, en effet, il faut consentir des efforts, chacun dans son domaine, afin de partager les usages professionnels et les usages domestiques.
Ce qui veut dire d'autres mesures de restriction ?
Alors les mesures qui ont été prises durcissent les mesures qui avaient été prises début juillet, mais nous escomptions avec les premières mesures des économies de l'ordre de 400 000 mètres cubes par semaine. On en a économisé 250 000 en 3 semaines, c'est bien, surtout que dans le même temps la population a presque quadruplé, mais ce n'est pas encore assez. Donc ce qui veut dire qu'effectivement au niveau professionnel, je pense aux professions agricoles qui sont particulièrement concernées et investies dans le secteur, on a élargi à 36 heures par semaine l'absence puissance d'arrosage déjà, ce qui est quand même déjà beaucoup selon les secteurs agricoles, et surtout les mesures destinées aux particuliers, c'est-à-dire l'absence d'arrosage de pelouse, le remplissage des piscines, le lavage des bateaux de plaisance dans les ports, ont été confirmés au niveau de leur interdiction, mais surtout les contrôles dès aujourd'hui vont être accentués par les différents services, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, gendarmerie, police, et aujourd'hui il n'y aura plus de procès-verbaux d'avertissement, comme on dit, ce sera des procès-verbaux secs.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les restrictions.
Bah écoutez, lorsque vous avez des consommations de 10 mètres cubes d'eau en une nuit, on peut se poser la question sur le remplissage de la piscine. Et lorsque vous voyez l'état de la végétation, de la sécheresse et que vous avez des belles pelouses bien vertes, on peut également se poser des questions sur l'arrosage et donc de l'utilisation de cette eau. Bien évidemment qu'il y a un gaspillage parce que les gens ne pensent pas que l'eau est une ressource qui devient une ressource à économiser.
Quelles amendes sont pratiquées dans ces cas-là?
1 500 € d'amende, puisque ce sont des amendes de 5e classe avec des récidives possibles. Donc c'est le code de l'environnement. Hein. L'arrêté préfectoral est basé sur le code de l'environnement. Donc ce sont la plus haute classe des amendes en matière contraventionnelle.
Est-ce que vous êtes lié aux compagnies d'eau pour vérifier, pour avoir une meilleure appréhension de ce qui est consommé?
Alors oui, l'Office hydraulique de la Corse, donc qui était dans le comité sécheresse, a une vision, alors évidemment sur les réseaux de distribution d'eau potable, mais ce qui est déjà une bonne idée, une bonne image, a une vision de ce qui s'est passé la veille, hein, c'est-à-dire avec une journée de décalage. Ce qui veut dire qu'effectivement, mardi prochain, lorsqu'il y aura le comité régional sécheresse, cette fois-ci au niveau de la région, nous aurons une vision sur une semaine de mesures et nous serons déjà en mesure de savoir si ce qui a été pris va dans le bon sens ou s'il faudra malheureusement accentuer davantage encore les mesures et d'aller cette fois-ci vers des mesures de restriction.
Donc la surveillance peut être très très concrète, hein, c'est ce que vous nous dites.
Ah oui, tout à fait. Au niveau de la consommation, la surveillance est très concrète. C'est pour ça que je vous disais que les 250 000 mètres cubes d'eau économisés en 3 semaines, c'est du concret par rapport aux consommations de la période précédente.
Davantage de restrictions en pleine période estivale, est-ce que ce n'est pas très difficile à mettre en place ?
Alors c'est très difficile, il faut savoir que certaines communes l'ont déjà fait, hein, puisque les distributions d'eau sont en très grande majorité du ressort des communes. Certaines communes, dès le mois de juin, avaient mis en place ce qu'on appelle des restrictions, c'est-à-dire tout simplement des délestages, hein, des coupures d'eau en cours de journée. C'est ce que font déjà. Alors en période estivale, effectivement, ça peut paraître un peu compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes en période de sécheresse et d'incendie, donc il faut avoir en effet des réseaux d'eau qui soit accessible à toute époque, à tout temps et à toute heure et à tout lieu par les services de secours. Et puis surtout, il ne faut pas avoir un effet de surconsommation, c'est-à-dire où les gens anticipent les coupures d'eau en faisant des réserves et l'eau ensuite va s'évaporer. Mais c'est malheureusement faisable. Et dans certaines communes où il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a des communes qui arrivent à des réservoirs à sec, nous procédons à du ravitaillement. Ça, il faut le savoir. Les services, notamment du SDIS, peuvent être réquisitionnés pour aller ravitailler en eau brute ces communes qui peuvent se retrouver parfois 10h, 11h sans eau courante.
Monsieur le sous-préfet, une dernière question. Est-ce qu'il y a un signalement des incivilités? Est-ce que vous avez des personnes qui vous rapportent, qui font de la délation, hein, tout simplement?
Non, alors pas encore. Je ne sais pas si ça va le faire, mais non. Il n'y a pas de signalement de délation. En revanche, il suffit de se promener dans la rue le matin, de bonne heure ou le soir, pour s'apercevoir, sans faire de délation, toutes les manques d'incivilité patents de certains.
Merci infiniment d'avoir été notre invité sur RTL, Yves Darrot. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse. Merci infiniment. Côté température, Anthony nous le disait, hein, il y a quelques instants, on respire un petit peu mieux. Mais 26 départements restent en vigilance orange canicule. La Meurthe et Moselle en fait partie. Et c'est là que vous êtes depuis ce matin, hein, Dimitri Ramelot, à Roselière, très précisément, en pleine récolte des Mirabelles. Pour tenter d'esquiver la chaleur, le travail se déroule sur une demi-journée et cela débute très tôt le matin.
Oui, dans les allées de Mirabelier, 18 degrés pour la prise de service de l'équipe de 15 personnes. Le soleil n'est pas encore levé lorsque Mathieu ramasse les premiers fruits.
On arrive vers 6h-5 et on commence directement. Ce qui est pratique à l'horaire-là, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. Les conditions de travail sont vraiment bonnes le matin, contrairement à l'après-midi où justement là on évite de travailler quand il fait 40 degrés, on n'a même pas essayé. Déjà sous 30, il fait très chaud, en plus c'est assez physique. On voit au moins toutes les demi-heures. Donc très bien de travailler le matin.
Et en plus de la pause de 9h qui permet de souffler un peu, la productrice Sabine Gralet-Dupic fait en sorte de mettre toutes ses équipes dans les meilleures conditions.
Bien sûr, on a la casquette, on leur donne des bouteilles d'eau, on les hydrate souvent. C'est vraiment important de travailler dans des bonnes conditions, à la fois pour les personnes, pour les fruits, pour tout le monde, c'est l'idéal.
Plus de 35 degrés en ce moment dans les 30 hectares de Mirabelier. Journée terminée, le matériel est rangé et sera ressorti après le repos des corps demain à l'aube.
Dimitri Rablot en Meurthe-et-Moselle pour RTL. RTL, il est midi et 41 minutes précisément.
RTL midi.
Il y a 2 ans, jour pour jour, le 4 août 2020, 200 personnes étaient tuées dans une explosion à Beyrouth, 6500 autres blessées, des dégâts colossaux. Et depuis, rien. L'enquête est au point mort, aucun responsable n'a été jugé, ce qui n'aide pas les Libanais encore très traumatisé, Chloé Doma.
La vie de Jihan Gora a basculé le 4 août 2020 à 18h07. L'étudiante était assise chez elle à quelques pas du port quand l'explosion a eu lieu. Les murs, les portes et les fenêtres se sont effondrés. Gravement blessée, elle a survécu par miracle, mais reste traumatisée.
J'ai peur quand j'entends un bruit fort, quand je vois du verre, quand quelqu'un crie ou quand il y a beaucoup de poussière. Je suis très sensible à ces choses qui peuvent paraître des détails. Moi, j'ai l'impression que ça va me tuer, que je vais mourir.
Comme Jihan, la plupart des habitants de Beyrouth, qu'ils aient été blessés ou non, ont des séquelles psychologiques. Dans un pays où la santé mentale n'est pas prise en charge, très peu de victimes peuvent s'offrir un traitement. Rita Hanna est une autre rescapée du drame. En 2 ans, elle n'a jamais vu de psychologue.
On est obligé de guérir par nos propres moyens. Parfois, notre colère ressort. Parfois, elle reste coincée à l'intérieur. J'ai beaucoup changé. Je n'apprécie plus rien.
Autre obstacle à la guérison, l'absence de justice. Tant que l'enquête n'aura pas abouti à la condamnation de responsables, difficile pour les Libanais de refermer leurs blessures.
Le reportage de Chloé Doma, la correspondante de RTL au Liban. La reconstruction est évidemment ralentie, pour ne pas dire complètement stoppée, par la crise économique qui touche le pays. Imaginez des prix multipliés par 10. Notre journaliste, Monique Younes, dont la famille vit toujours à Beyrouth, donnait un cas très concret ce matin.
Pour vraiment bien comprendre la situation au Liban, je vais vous donner l'exemple de ma tante qui était enseignante. Elle touchait il y a 2 ans une retraite mensuelle de 3 millions de livres libanaises, ce qui correspondait alors à 1 800 euros, si vous voulez. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, ces 3 millions de livres libanaises ne valent plus que 100 dollars. Et si vous n'avez pas un enfant, un oncle, une sœur, une cousine qui travaille à l'étranger, qui peut vous envoyer 200 euros par-ci, 500 euros par-là, vous êtes mais vraiment réduit à la mendicité.
Monique Younes avec Jérôme Florin ce matin sur RTL. Si vous souhaitez prendre la parole au 3210, revenir sur cette explosion d'il y a 2 ans ou nous parler de la situation actuelle au Liban, n'hésitez pas, on attend vos appels. Comme elle l'avait annoncé après la visite de Nancy Pelosi, la Chine a débuté ses grandes manœuvres militaires autour de Taïwan. Plusieurs missiles balistiques ont été tirés dans les eaux territoriales. Une démonstration de force qui permet également à Pékin d'isoler un peu plus Taïwan du reste du monde, Hugo Aubry.
C'est une véritable armada qui bloque désormais tous les accès à l'île de Taïwan. Le détroit de Formose, par lequel transite près de la moitié des porte-containers du monde, est bloqué. L'armée chinoise a lancé depuis ce matin des exercices à munitions réelles, avec des tirs de missiles balistiques et supersoniques, ainsi que des tirs de roquettes qui ont duré toute la journée. Les ports de Taïwan sont désormais inaccessibles et l'île pourrait rapidement manquer de gaz et de pétrole. Un blocus dont l'objectif est d'isoler complètement Taïwan du reste de la planète. Il s'agit de casser, selon les militaires chinois, toute volonté d'indépendance et aussi de punir Taïwan pour avoir reçu hier Nancy Pelosi. Dans les airs également, l'armée chinoise a déployé ses chasseurs furtifs et ses bombardiers. Elle a demandé aux compagnies aériennes de suspendre jusqu'à dimanche le survol de cette région qui ressemble désormais à une zone de guerre. La Chine vient de publier un communiqué dans lequel elle affirme que cette première journée de manœuvre militaire a été couronnée de succès.
Hugo Aubry, le correspondant de RTL en Chine. On fait une pause et dans un instant, bonne nouvelle, enfin peut-être, visiblement, les patrons se disent prêts à augmenter les salaires.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Pas de mesure pour augmenter les salaires dans la loi pouvoir d'achat. Hier soir, députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le second volet de mesures, notamment la revalorisation des retraites de 4%, la possibilité de monétiser ces RTT, mais pas d'obligation donc de revoir les salaires à la hausse, simplement une forte incitation. C'est ce qu'expliquait ce matin sur RTL Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait passer des augmentations de salaire,
combien?
Tant mieux. Mais je redis avec beaucoup de gravité, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Toutes celles qui sont un peu inquiètes pour leur avenir et qui disent « Attendez, nous on ne peut pas s'engager pour l'avenir parce que ça peut menacer notre survie, on ne sait pas de quoi 2023 va être fait ». Utiliser des instruments conjoncturels. La prime défiscalisée, elle est passée à 6000 euros. Versez-la.
La balle est donc dans le camp des patrons qui, visiblement, ont reçu le message. À minima, mais quand même, Arnaud Touche.
Oui, les hausses de salaire dans les entreprises françaises seront en moyenne de 3,1% cette année. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle du groupe Willis Towers Watson qui pose la question aux patrons chaque année. Alors, plus 3,1%, c'est moins que l'inflation, bien sûr, c'est vrai, mais c'est tout de même mieux que les 10 années précédentes. Par exemple, de 2010 à 2019, eh bien, les augmentations n'ont pas dépassé 2,5% par an. En 2020, c'était à peine 2%. C'était le début de la crise sanitaire liée au Covid. Mais il y a de l'espoir tout de même pour l'année prochaine, 2023, puisque les augmentations pourrait s'amplifier jusqu'à plus 3,5%. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ceux qui sont les plus augmentés sont ceux qui travaillent dans le numérique, la finance ou encore les nouvelles technologies, et plutôt les cadres de manière générale. Les augmentations sont là aussi, mais moins fortes pour les ouvriers et les salariés de l'agroalimentaire, l'hôtellerie-restauration ou encore le tourisme.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Et vous, pensez-vous que votre employeur va vous augmenter dans les prochains mois? Venez nous le dire au 3210. Autre compromis trouvé hier soir en commission mixte, la mise en place d'une carte vitale biométrique. Elle permettrait d'éviter les fraudes à l'assurance maladie. Et justement, la CNAM est en train de passer au crible tous les types de tricheries, Anaïs Bouissou, pour avoir une idée des sommes qui pourraient être économisées.
Alors sur la mutuelle destinée aux plus précaires, la complémentaire santé solidaire, sur 2,5 milliards d'euros versés, le montant de la triche pourrait atteindre près de 9%. Sur le nombre de cartes vitales frauduleuses ou en double, là on n'y comprend toujours rien. Les chiffres passent de quelques centaines à plusieurs millions de cartes, sans que l'on ait une estimation précise. Concernant la fraude des professionnels de santé, à présent, les soignants trichent aussi, et pour des montants bien plus importants. Un rapport de 2019 évaluait à 30% le nombre de professionnels de santé parmi les fraudeurs et à eux seuls, ils représentaient 80% des sommes détournées. D'ici à l'année prochaine, la CNAM prévoit d'évaluer les petits et gros arrangements des médecins généralistes, des masseurs-kinésithérapeutes, dentistes ou encore des biologistes. En attendant, les fraudes des infirmiers libéraux ont déjà été passées au crible. Ils frauderaient entre 5 et 8% de leur facturation à l'assurance maladie, un petit pansement soi-disant compliqué, un faux vaccin, un faux soin, somme détournée rien que pour les infirmiers libéraux, jusqu'à 400 millions d'euros par an.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou pour ces explications. 3 semaines de vacances pour les ministres, ça y est, c'est parti. Le top départ a été donné en quelque sorte hier soir à Matignon. Elisabeth Borne a réuni tous les membres du gouvernement et leur famille pour un moment convivial, informel. Bonjour Thomas Després.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
L'occasion de faire un premier bilan avant la pause estivale.
Oui, la Première ministre qui s'est montrée plutôt satisfaite des premiers mois de son gouvernement. Elle a salué modestement et sans triomphaliste, m'expliquait ce matin un participant, les premières avancées pour les Français en matière de pouvoir d'achat notamment. Et la petite fête s'est prolongée jusqu'à la tombée de la nuit dans les jardins de Matignon avant des vacances qui seront nécessairement studieuses, a prévenu Elisabeth Borne.
Et Thomas, vous êtes en mesure de nous dire où partent les ministres? On est d'accord, c'est toujours en métropole?
Oui, absolument. Pas plus de 2 heures de Paris, vous connaissez la règle, restez joignable à tout moment. Alors si vous rêvez de croiser un ministre en maillot de bain, le plus simple, c'est de prendre la direction du sud de la France. Au moins, 6 membres du gouvernement y sont attendus. En tête, la première d'entre eux, Elisabeth Borne. Elle doit poser ses valises dans le Var, à quelques kilomètres du fort de Brégançon, où est actuellement Emmanuel Macron. Éric Dupond-Moretti, lui, passera l'été en famille. À Nice, Bruno Le Maire, lui, sera au Pays Basque. Après quelques jours passés en Bretagne, comme son collègue Pap Ndiaye de l'Éducation nationale. Et puis au moins 3 ministres iront bronzer sur l'île de beauté. Gabriel Attal, Marlène Schiappa et Franck Riester.
Et tout le monde devra être de retour le 24 août pour le prochain Conseil des ministres. Merci Thomas Després. Vous nous parliez d'Elisabeth Borne. Eh bien, elle a annoncé il y a quelques instants la création d'un poste d'ambassadeur aux droits LGBT qui sera nommé cet ambassadeur avant la fin de l'année. Écoutez.
Mener le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières. Ces dernières années, des droits LGBT+ ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ça n'est pas acceptable. Aussi, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT+ sera nommé d'ici la fin de l'année. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité.
Elisabeth Borne qui s'exprimait il y a quelques instants donc lors d'une visite d'un centre LGBT à Orléans. Après l'assassinat d'Yvan Colonna en prison en février dernier, un surveillant fait l'objet de mesures disciplinaires et ça ne passe absolument pas dans la profession. Depuis ce matin, une 60aine de gardiens bloquent l'accès à la prison d'Arles. C'est là que le militant corse a été tué, c'était en mars dernier, Hugo Hamelin.
Absolument Agnès, une colonne de fumée noire s'élève au-dessus des hauts murs de la prison d'Arles depuis ce matin. Ils sont plusieurs dizaines de surveillants pénitentiaires à être venus soutenir publiquement leur collègue qui était en charge de l'aile du bâtiment où a été tué Yvan Colonna, c'était en mars dernier. Mis en cause dans un rapport publié vendredi dernier, ce fonctionnaire n'est pas encore officiellement suspendu. C'est donc une manifestation préventive qu'a organisé Thomas, le délégué UFAP-UNSA Justice à la prison d'Arles et qui connaît bien ce fonctionnaire.
Aujourd'hui, on cherche un bouc émissaire. On a trouvé le dernier maillon de la chaîne, tout en bas. Et c'est celui-ci qui doit ramasser pour toutes les défaillances, tant bien du ministère que de l'administration pénitentiaire. C'est trop facile et c'est inacceptable. Ce n'est pas de rendre justice aux collègues, ne pas rendre justice non plus à la famille d'Yvan Colonna. C'est trop simple. Très clairement, la politique a pris le pas sur la justice. On veut un coupable rapidement et que ça fasse pas de vagues. On donne la pâture, un simple surveillant. C'est pas comme ça que ça marche.
La prison spécialisée dans les longues peines est donc bloquée depuis ce matin. Seuls les véhicules et personnels de santé sont autorisés à passer la porte. Un convoi de CRS est parti de Marseille tout à l'heure et va tenter de déloger ces manifestants dans le calme dans les heures qui viennent.
Notre correspondant Hugo Hamelin devant la prison d'Arles pour RTL. Prendre des vessies pour des lanternes. Désormais, on peut également dire prendre une tranche de chorizo pour l'étoile Proxima. La photo d'un scientifique a été partagée de très nombreuses fois sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit une tranche très rouge de chorizo, donc, sur fond noir. Et c'était bien le but du physicien Étienne Klein, toujours se méfier des apparences.
Je ne pensais pas que mon canular ne serait pas immédiatement détecté. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait un emballement que j'ai dû préciser les choses et expliquer qu'en effet, ça n'était qu'une tranche de saucisson. J'ai été surpris que beaucoup de gens se sentent blessés par le canular, comme si j'avais voulu les tromper, comme si c'était un senti humilié de ne pas avoir vu la blague d'emblée, alors que tout le monde peut se laisser tromper par ce genre de choses. C'était ça le message, c'est que tout le monde peut se laisser tromper. Quand un scientifique est le seul à dire ce qu'il dit, en général, il se trompe. Ce qui compte, c'est que l'information soit reprise par d'autres, etc. C'est à ce moment-là qu'elle devient en quelque sorte objective. C'est une petite blague sans grande importance, révélatrice de notre rapport à la vérité sans doute, mais à laquelle il ne faut pas donner une importance exagérée. Ça indique des choses sur la façon dont nous recueillons les informations.
Étienne Klein avec Benjamin Boucrige. Dans un instant sur RTL, on ne testera pas le métier de physicien, non, mais un autre, comme tous les jours, vous le savez, les journalistes passent une journée avec une profession en particulier. A tout de suite pour les Prairies Normandes.
Midi. RTL en immersion.
RTL en immersion qui nous emmène dans les vertes prairies normandes. Marie-Bénédicte Allaire, vous avez mis vos bottes pour découvrir le quotidien d'une agricultrice et plus précisément d'une éleveuse laitière à Saint-Seigné-de-Beuvron dans la Manche chez Jean-Marc Belloir.
Oui, peu avant 7 heures, j'arrive chez Jean-Marc qui m'accueille dans sa ferme.
T'es prête ?
Bah ouais, je suis prête. Bonjour le chien.
C'est voilà. On va aller changer, on va aller au bureau.
Donc je vais te filer ton petit vêtement de travail.
Ouais.
Hein. Petite cotte, sympa.
Et on va aller chercher les vaches.
Ok. C'est quand même un cadre idyllique hein, pour travailler.
C'est vrai, hein, ah, c'est ouais. Sympa. Hein.
Ah ben bah voilà, elles sont là, elles savent que elles c'est l'heure. Allez, allez, allez. Allez, va.
Les vaches savent où elles doivent aller. Elles se placent quasiment toutes seules au poste de traite.
On va faire ce qu'on appelle le premier jet.
Je prends le pi.
Ouais, tu appuies et tu descends.
Oh, il sort rien du tout. Ah si.
Donc je vais te laisser la brancher.
Là, je fais une petite caresse.
Voilà.
Alors là.
Bien. Voilà, comme ça. C'est bon.
Allez, le quatrième.
Anthony, tu vas pas partir en vacances.
Oh non, je suis pas encore prête à remplacer Anthony pour traire la centaine de vaches du troupeau. D'autant que maintenant, ce sont les petits veaux qui attendent.
Tu veux prendre le seau?
Ouais, ouais.
Tu prends juste un pot chacun.
Ouais.
Vas-y.
Tiens, tiens, tiens. Hop là. Hop là. Et me mords pas, toi.
Un petit peu de rame.
Allez.
Des jours de fête.
Il faut aussi parfois s'improviser vétérinaire à la ferme. Jean-Marc me demande de faire une piqûre à un petit veau malade.
Bon, il va peut-être pas se laisser faire parce que bon, ils aiment pas trop. Très bien. Alors, donc tu vas le piquer, non, dans le cou, au niveau du cou.
D'accord.
Tu piques carrément, tu vas, hein, carrément.
Okay.
Et... Non, il va pas se sauver. Allez.
Allez, viens.
Tu le pousses contre la cloison. Voilà.
Et là, dans le cou?
Tu piques dans le cou, ouais.
Ah merde, ça coule à côté. Non, j'espère
bon.
Que c'est bien rentré.
Et ce sont les derniers jours de traitement. Donc
bon.
Il n'y a pas que le soin aux animaux, Marie-Bénédicte. Vous avez conduit, du moins essayé de conduire, des tracteurs. Oui, et pour préparer la ration des vaches, Jean-Marc a tenu à ce que je manipule la fourche télescopique.
Avec ton pouce, tu vas pouvoir, tu vois, attirer. Tu attires le bras.
Ça tire le bras, d'accord.
Celle-là, tu fermes la griffe.
Ok.
Si tu tires vers l'arrière le pommeau, le gros pommeau...
Je le tire vers l'arrière.
Voilà, tu vas lever. Voilà. Là, c'est bon.
Je suis très nulle en jeu vidéo, tu sais. Donc
c'est vrai?
Ouais.
Faut pas que t'aies peur. Si tu tires vers l'arrière, ça va reculer.
Oh. Ok.
Alors attends, je vais te mettre en première.
Et la chienne, elle va se pousser?
Non, elle va se ranger, t'inquiète pas, la chienne. Ouais.
Ok.
Tourne dans l'autre sens, on va vers la mélangeuse. Hein.
Et la mélangeuse, elle est où?
Elle est là-bas, derrière.
Derrière? Ah oui. C'est pas du tout.
Allô.
Vous êtes bien amusé, visiblement, mais vous iriez, Marie-Bénédicte, jusqu'à changer de métier? Écoutez, j'ai adoré cette journée en pleine campagne avec les animaux, mais on ne s'improvise pas agricultrice comme ça, il faut des diplômes, sinon les banques ne prêtent pas d'argent. C'est un métier très physique, et puis les éleveurs gagnent en moyenne un peu plus que le SMIC, mais avec des variations en fonction des cours du lait, des journées à rallonge, très peu de vacances et de week-ends, il faut vraiment être passionné. D'ailleurs, Jean-Marc, il était cuisinier avant de se reconvertir.
Je ne changerai pour rien au monde, parce qu'en fait, j'ai ma liberté de faire. Malgré les contraintes, parce qu'il y a des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est pénible, qu'est-ce que c'est dur, mais en fait je suis libre.
Moi je suis peut-être pas prête à faire le grand saut, mais je remercie beaucoup Jean-Marc et Anthony pour leur accueil. Et puis bah s'ils ont besoin d'un coup de main, qu'ils n'hésitent pas. Hein.
Allez, on y va.
Les aventures de Marie-Bénédicte Allaire à retrouver sur rtl.fr et l'appli RTL comme tous les autres épisodes hein, de RTL en immersion. À tout de suite.
RTL Midi.